20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On le sait, l'emballement de la dette publique de la Grèce a entraîné une grave crise économique. Le pays a dû ainsi céder ses autoroutes et aéroports, son énergie, ses ports, notamment le Pirée, porte ouverte sur l'Europe. À l'agonie, la Grèce serait désormais réduite à brader son bien le plus précieux, son histoire, son patrimoine. Voici quelques mois, la presse programmait ce dramatique démantèlement. Le gouvernement grec projetant de privatiser des centaines de sites archéologiques. En lice, le palais de Knossos et son Minotaure, le tumulus de Philippe II, père d'Alexandre, la cité de Sparte, le site d'Acrotiri de Santorin ou Salamine. Seule l'Acropole n'est pas encore à vendre, mais nous y viendrons, commentait-on, dans les rues d'Athènes. Par chance, l'annonce véhiculée serait une rumeur, une simple fake news, et le patrimoine grec ne se transformera pas pour l'instant en parc d'attractions afin de divertir un tourisme de masse. Pour autant, l'occasion était trop belle pour ne pas évoquer l'hellénisme et les recherches menées au cœur de la Grèce. Alexandre Farnou, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de la Crète minoenne et de Délos, professeur d'archéologie grecque à la Sorbonne, vous êtes depuis 2011 directeur d'une de nos plus prestigieuses institutions de recherche à l'étranger, l'École française d'Athènes. Alexandre Farnou, pourquoi cette étonnante rumeur, tout d'abord grecque, puis internationale?
Alors je crois qu'il faut commencer tout de suite par rassurer vos auditeurs. C'est en effet une rumeur qui a circulé, qui repose sur l'injonction qui a été faite à la Grèce et à l'État grec en particulier d'établir la liste de ses actifs dont il est propriétaire. Le patrimoine dépend de l'État grec. L'inventaire du patrimoine rentrait dans le cadre de cette injonction. Mais il n'était évidemment pas question pour l'État grec de se séparer de ses biens d'une manière ou d'une autre.
Il y avait 10 000 biens propriété de l'État qui allaient donc être transférés à un fonds. Mais il y a une sorte d'article, le fameux article 24 de la Constitution grecque qui protège l'héritage culturel du pays, c'est bien ça?
Oui, bien sûr, le patrimoine de l'État grec est protégé par la loi grecque. Une partie d'ailleurs de ce patrimoine, il faut le rappeler, est aussi classée au patrimoine mondial à l'UNESCO. Par conséquent, les mesures de protection sont prises et sont efficaces. Il y a derrière une autre question qui est mélangée dans cette rumeur, qui est la question de l'établissement du cadastre en Grèce, qui est un chantier en cours, qui est en train de s'achever, mais qui s'achève tout juste maintenant, et les sites archéologiques font partie de cet inventaire lié à l'établissement du cadastre sur l'ensemble du territoire.
L'École française d'Athènes est une très belle, une très vieille institution, 173 ans d'existence, née de deux révolutions, l'une politique, l'autre littéraire, l'État grec et le romantisme.
Oui, l'École française d'Athènes est fondée en 1846. Il s'agit d'y envoyer des jeunes savants, philologues, à la recherche de l'hellénisme et de son étude, de l'hellénisme et de ses avatars, de ses transformations. L'idée étant de rechercher au cœur de cette culture qu'on appelle la culture grecque, les racines qui sont aussi celles de notre propre culture et en particulier des Lumières autour de la liberté de penser, de la citoyenneté, de la démocratie.
Vos recherches portent sur la Grèce antique et Byzance, mais aussi sur des périodes plus récente.
Oui, dans le cadre de l'École française d'Athènes, nous étudions aussi bien la naissance du néolithique que la transformation du tissu urbain d'Athènes sous l'effet de la crise. L'arrivée des migrants, par exemple, fait l'objet d'un inventaire dans le cadre de l'Atlas social d'Athènes, et nous travaillons aussi sur le patrimoine ottoman ou le patrimoine byzantin de la Grèce.
Ça, c'est très nouveau.
C'était inscrit dans l'ADN de l'école au départ, mais la charge des travaux archéologiques à partir de 1868 a fait qu'on est devenu une école principalement archéologique, et dans le cadre de notre activité scientifique, en effet, l'archéologie occupe aujourd'hui encore une part importante de notre temps.
Vos archives constituent une part importante de l'histoire, bien sûr, de l'hellénisme. En 2017, vous subissez une attaque, un attentat contre ces documents?
Alors oui, l'école, comme l'Institut français juste à côté, a été victime d'un attentat en février 2017. C'est un événement qui est lié à l'état de tension dans lequel se trouve la société grecque, qui est profondément affectée affectée par la crise, qui est une crise économique, mais surtout une crise sociale aussi, avec une violence qui se développe ponctuellement. Et nous avons été la cible, au titre d'un établissement français, d'une attaque, mais très isolée dans ce cadre-là.
Alors bien sûr, nous ne sommes pas dans la délégation de Kaboul. C'est toutefois la seconde attaque du genre, la première ayant eu lieu en 1916. Qui était ce groupe minoritaire qui a tenté cet acte criminel aujourd'hui ?
Alors, c'était un groupe de l'ultra-gauche de Grèce, hein, mais je dirais que il faut le prendre comme le fait que l'école française d'Athènes est profondément ancrée dans l'histoire de la Grèce. Nous sommes un élément de cette histoire à part entière et nous la partageons, nous la vivons dans les meilleurs moments comme dans les moments les plus difficiles. Hein. L'école française a été fermée pendant la guerre de 14-18, l'école française a continué son activité pendant la dictature, tant bien que mal. L'école française a été aux côtés de nos amis grecs dans tous les moments difficiles. Nous partageons y compris ces moments de violence. Il faut rappeler que de nombreuses cibles sont prises par ces groupes de l'ultra-gauche en Grèce. Nous en sommes une parmi d'autres en ce moment.
1846-1847, la première promotion de 7 membres surnommés les Argonautes débute ses recherches. Il faut toutefois attendre 1868 pour que de vraies fouilles d'ampleur débutent.
Oui, la mission de départ était d'étudier la langue et ses transformations. Et donc les premiers membres de l'école ont pour mission d'étudier à travers des inscriptions. On comprend assez rapidement que pour renouveler ces inscriptions, il faut faire des fouilles. Et donc, c'est à la suite de l'éruption de Santorin, en fait, que l'école française d'Athènes comprend tout l'intérêt qu'il y a à ouvrir la terre et à descendre le plus profondément possible. Et donc, c'est à partir de 70 que commence la grande fouille de Délos, puis ensuite la grande fouille de Delphes, et puis ensuite les fouilles de Thasos, de Philippe et de Malia.
Puisque vous êtes philologue de formation, que représente pour vous l'hellénisme ?
L'hellénisme continue de représenter pour nous tous, et pas seulement pour les philologues, la culture de référence pour laquelle non seulement il y a des grands textes comme l'Iliade et l'Odyssée, bien sûr, mais aussi des grands textes philosophiques et puis aussi des grands textes politiques qui sont au cœur de notre propre culture aujourd'hui. Par conséquent, c'est un élément de notre histoire, de notre propre histoire que l'hellénisme. Et donc, aller l'étudier sur place, dans le pays qui l'a produit, ça a évidemment un sens particulier.
C'est l'universalité, la démocratie, l'hellénisme qui nous fut aussi transmis par les Lumières ?
Oui, c'est vers la Grèce que se sont tournés les philosophes des Lumières, et puis ensuite les révolutionnaires, en allant tantôt puiser du côté plutôt d'Athènes ou plutôt de Sparte, suivant les époques. Mais en tout cas, c'est les grands textes fondateurs de notre culture politique, en particulier, sont des textes grecs.
La Crète, c'est bien entendu les fouilles de Malia, bien moins connues que celles de Knossos. Malia, j'en ai le souvenir dans une émission avec Henri Van Infanter, le proto-palatial vers 1800 avant notre ère, le minoen ancien et récent et son néo-palatial autour de 1700 avant notre ère jusqu'à 1450, c'est à peu près ça ?
Oui, c'est ce qu'on appelle la civilisation minoenne qui s'est donc développée en Crète, qui est la première grande civilisation liée à l'exploitation des ressources de la Crète et qui se diffuse ensuite en Méditerranée, hein, sur le continent grec et puis dans les îles. C'est la grande culture connue essentiellement pour ses fresques et son architecture compliquée, hein, puisque c'est elle qui est probablement l'origine du mythe du labyrinthe.
C'est une des grandes fouilles françaises ?
Alors le site de Malia est un site fouillé depuis 1921 par les Français. Il a commencé par le service archéologique grec et puis ensuite les Français sont venus travailler en développant la recherche sur ce palais. C'est l'un des palais de la Crète, hein, des quatre palais de la Crète avec Knossos, Zacro et Héphaïstos. C'est une grande structure avec cour centrale, magasin, salle de prestige, lieu de religion, de sanctuaire et magasin de stockage et d'atelier.
Pour vous, c'est la fouille d'une maison de Malia qui a été un moment peut-être important pour comprendre la vie quotidienne au temps du roi Minos, pour reprendre un livre qui a été très célèbre.
Oui, en effet, le livre de Paul Fort avait donné un cadre général pour cette vie quotidienne que l'archéologie permet de connaître assez bien. En effet, le monde de Minoen a livré non seulement des palais mais des maisons, et de ce point de vue-là, le site de Malia est très particulier puisque nous avons fouillé plusieurs quartiers dans le cas des fouilles de l'école française d'Athènes. Moi-même, avec mon collègue Andriessen, nous avons fouillé une des maisons de Malia qui a la particularité d'appartenir à la fin de l'âge du bronze et donc au moment où le palais n'existe plus, la ville continue d'exister encore et puis ensuite va s'effacer complètement. On est aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ, 1200 avant Jésus-Christ, et on a eu la chance de tomber sur une maison où tout était en place et où on a trouvé toute la vie quotidienne de ces dernières années de l'âge du bronze avant l'arrivée des âges obscurs.
C'est aussi la découverte d'une inscription en linéaire B, une écriture qui a d'ailleurs été déchiffrée en 1952 par Ventris.
Oui, le site de Mali avait fourni des échantillons d'écriture pour le linéaire A et le hiéroglyphique, qui est une sorte de deux écritures qui développée par les Minoens. Nous avons eu la chance de découvrir des vases portant des inscriptions dans cette troisième écriture qu'on appelle le linéaire B et dont nous savons qu'en effet cette écriture notait une forme très ancienne de grec. Il faut rappeler que la Grèce est un pays dont nous connaissons l'histoire de la langue depuis 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours.
Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur cette inscription ?
C'est vraisemblablement sur les vases, ce sont des toponymes qui sont portés pour marquer la provenance des produits que contiennent les vases. Dans certains cas, il s'agit peut-être probablement aussi d'anthroponymes. Ce sont des types d'inscriptions assez différents de ce qu'on trouve sur les tablettes en linéaire B qui, elles, sont des inventaires de biens déposés dans les palais.
Les fouilles continuent à Malia aujourd'hui, en 2019 ?
Oui, les fouilles ont continué jusqu'à ces dernières années. Aujourd'hui, on est plutôt en campagne d'études et de publications, car il faut rappeler que le travail des archéologues, c'est non seulement de fouiller, mais c'est aussi de publier les découvertes qui sont faites. Et donc, nous avons des équipes qui, chaque année, viennent travailler la publication, soit du palais où il reste encore des choses à publier, soit des dernières fouilles de maisons qui ont été réalisées dans les années 2000.
C'est aussi conservé, Malia se dégraderait, paraît-il ?
Oui, comme tous les sites grecs qui sont soumis à des visites et une augmentation du tourisme très rapide ces dernières années, c'est un site qui est très populaire, le site de Malia, puisque les visiteurs ont la chance d'accéder à l'architecture minoenne avant restauration, à la différence de Knossos, où on a des restaurations d'Arthur Evans assez massives. Là, on a une architecture minoenne qui est dans son état d'origine, en quelque sorte. Donc c'est un site très populaire, très visité, et évidemment, il y a besoin de travaux de restauration, d'aménagement, de consolidation pour permettre une visite dans de bonnes conditions.
Knossos, c'est bien entendu les fouilles de Sir Arthur Evans, l'archéologie d'un rêve, la mise en place du monde minoen, une thalassocratie pacifique et marchande qui s'oppose au monde mycénien.
Oui, le monde minoen, quand on le regarde, on le confronte à la situation mycénienne qui suit juste après, présente un contraste très fort. En particulier, le contraste le plus saisissant, c'est que le monde mycénien paraît un monde extrêmement militaire et avec la forteresse de Mycène ou de Tirinthe, avec les images représentant des gens en armes et des gens en guerre, et le monde minoen où les palais ne sont pas fortifiés et les fresques présentent des scènes champêtres, de fêtes et de danse et pas du tout des scènes militaires ou très très rarement. Donc il y a un contraste très fort en effet qui a été exploité. Le mythe autour du roi Minos est le mythe d'une civilisation très puissante, la thalassocratie minoenne, qui est rapportée par Thucydide, qui semble renvoyer à une puissance économique qui rayonnait sur toute la Méditerranée orientale en particulier.
On pourrait même dire que Mycène pourrait représenter l'Allemagne guerrière de Guillaume II et les Minoens, donc le royaume d'Angleterre victorien.
Alors, il est certain que, comme toujours en histoire de l'archéologie, les cadres politiques dans lesquels se font ces découvertes et la recherche est menée ont forcément une influence sur la façon dont on comprend les découvertes. Il est très probable que quand Arthur Evans trouve le palais de Minos dans une île de Crète, avec une puissance qui rayonne sur le monde par sa force économique et son pouvoir, avec une architecture qui présente le développement de tout le confort et de toutes les commodités, avec l'eau courante dans les étages, les cabinets de toilettes partout, il y a évidemment un synchronisme avec l'Angleterre victorienne qui joue très fort, bien sûr. C'est très prégnant dans la façon dont Arthur Evans va le découvrir. Et l'archéologie n'échappe évidemment pas à ces interprétations politiquement orientées. Il n'en demeure pas moins que le monde minoen est un monde d'une étonnante modernité quand on pense qu'on est en 1800 avant Jésus-Christ et que les Minoens maîtrisent déjà tous ces aspects de la vie quotidienne.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Arthur Evans a fait d'énormes restaurations illusionnistes. Peut-on défendre Arthur Evans aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il faut le défendre. Ça, je l'ai fait et je le referai à chaque fois qu'on m'en donnera l'occasion. Il a reconstruit le palais de Knossos. On l'a appelé même le constructeur de ruines à l'époque. Il était très contesté. Ses méthodes, évidemment, non réversibles, nous posent aujourd'hui des problèmes. Mais il faut bien voir que quand Arthur Evans découvre le monde minoen, c'est un petit peu comme Christophe Colomb qui arrive en Amérique. Il n'a aucun cadre de référence pour parler du monde minoen. Il est obligé d'abandonner Homère. Schliemann a fouillé Mycène avec Homère à la main. Donc il avait un guide pour comprendre ce qu'il était en train de trouver. Quand Evans fouille Knossos, il n'a aucun guide, il est obligé de laisser tomber Homer et de se débrouiller tout seul pour comprendre ce qu'il a sous les yeux. Et donc le palais de Knossos que nous visitons, c'est le palais que Arthur Evans a compris et c'est le cadre général de cette civilisation minoenne dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, hein, la royauté du prince aux fleurs de lys, le palais avec le culte de la déesse mère, c'est toujours un cadre scientifique dans lequel nous sommes. Donc le palais que nous visitons, c'est le palais de ce que nous savons d'éminemment aujourd'hui.
Alexandre Farnoux, nous sommes loin de vraiment connaître l'organisation politique réelle des palais crétois, normalement considérés comme la première entité étatique et urbaine de l'Europe. Ce n'est pas rien.
Il est certain que grâce à la civilisation minoenne, nous accédons à une sorte de première structuration, organisation de communautés humaines avec une gestion vraisemblablement communautaire, peut-être placée sous l'autorité d'un pouvoir central, peut-être royal, avec une gestion d'archives qui tient compte de l'arrivée de biens qui sont prélevés, de biens qui sont transformés et de biens qui sont redistribués. On peut donc considérer qu'on a en effet tous les attributs d'un État qui existe et qui existe donc dès 1900 avant Jésus-Christ dans cette partie-là de la Méditerranée.
Le monde crétomycénien s'effondre vers 1177, en attendant bien sûr le miracle grec. Les archéologues voient la période suivante comme une sorte d'âge sombre.
Oui, nous voyons tous les palais, alors les palais minoens disparaître rapidement, remplacés par une occupation mycénienne. La civilisation mycénienne sur le continent se développe à peu près et disparaît aux alentours de 1100 avant Jésus-Christ. L'écriture disparaît en même temps et il suit une période qu'on appelle les âges sombres, essentiellement parce que nous avons du mal à savoir ce qui s'y passe réellement. Les centres de peuplement se déplacent, la culture matérielle se raréfie et devient plus difficile à comprendre. Cependant, il faut préciser que les découvertes récentes de ces dernières années montrent que il y a une très grande effervescence au 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ qui prépare ce qu'on a appelé la Renaissance grecque.
On pouvait voir aussi que, par exemple, toutes ces grandes civilisations, minoennes ou mycéniennes, étaient des sortes de pouvoirs autoritaires et que ces âges sombres seront peut-être plus égalitaires.
Alors, c'est l'image qu'on avait jusqu'à ces dernières années, hein, de pouvoirs autoritaires, monarchiques, autour des palais, avec des dynasties. Aujourd'hui, on serait un peu plus nuancé, essentiellement parce que, par exemple, en Crète, pour les époques qui vont du 15e et 14e siècle avant Jésus-Christ, on est en train de découvrir de tout petits palais qui ont tous les traits des grands palais, cours centrales, magasins, lieux de pouvoir et sanctuaires, et qui semblent montrer une dissémination des structures d'État à travers tout l'île. Et donc on est en train d'aujourd'hui de travailler plutôt sur des scénarios d'une civilisation polycentrée, décentralisée, et peut-être même avec des pratiques communautaires, où le palais ne serait jamais qu'un grand bâtiment communautaire et non plus le siège d'un pouvoir unique.
Vos recherches, c'est aussi celle entreprise à Anna Vlokos, avec la découverte de dépôts votifs zoomorphes, c'est bien ça?
Oui, alors juste dans la même région, en Crète, toujours en Crète de l'Est, sur la côte, hein, dans la montagne qu'on appelle le Lana Vlokos, qui est une montagne où se trouve un habitat qui prend juste la suite de l'habitat de Malia de l'âge du bronze, hein, on est donc dans ces fameux âges obscurs. Une découverte très récente a montré la présence de sanctuaires de sommet avec des séries de figurines qui couvrent la fin de l'âge du bronze et tout l'époque géométrique et l'époque archaïque dans une espèce de continuité religieuse et de pèlerinage tout à fait étonnante et remarquable par les objets qui y sont présents.
Que représentent ces figures animales ?
Ces figures représentent à la fois des animaux, des sphinx en particulier, des animaux fantastiques, des figures féminines, hein, et elles sont déposées sur un temps très long, et quand on connaît Anna Vlokos, il faut vraiment vouloir les déposer parce que l'ascension n'est pas facile pour aller jusque sur le sommet pour le faire. Nous savons qu'il y avait un habitat juste en contrebas et surtout une grande nécropole qui a fait l'objet de fouilles très récentes où un tumulus avec plusieurs fosses et un grand bûcher au centre a été installé et va nous permettre de reprendre la question de la naissance des cités autour de structures communautaires et en particulier de structures funéraires.
Des sphinx, c'est normal d'en trouver par exemple dans l'iconographie crétoise ?
Oui, oui, c'est une figure que l'on voit dans l'iconographie archaïque qui va se développer beaucoup dans le monde crétois et dans l'iconographie crétoise des débuts du monde de la cité. Il faut rappeler que c'est en Crète que se trouvent les tout débuts de la cité grecque, hein, telle que nous les connaissons, et d'ailleurs les Grecs eux-mêmes avaient le souvenir que c'est en Crète que se trouvaient les formes les plus anciennes de l'histoire de leur cité.
L'école française d'Athènes aurait aussi fouillé un dépôt de statuettes du 9e siècle avant notre ère ?
Solana Vlokos, c'est la suite de ce dépôt dans un deuxième sanctuaire à proximité où ont été trouvées un certain nombre de figurines qui appartiennent cette fois-ci à un lieu de culte et qui est là aussi le signe que quand l'habitat sur le bord de mer de l'âge du bronze disparaît, les populations ne disparaissent pas complètement mais remontent dans les montagnes, développent des systèmes de survie dans les montagnes en exploitant des terres agricoles accrochées sur des terrasses. Et on va les voir redescendre un petit peu plus tard, à fin d'époque archaïque, à l'époque classique, vers les plaines.
À Dreros, autre lieu, une agora monumentale et hellénistique aurait été fouillée.
Alors, toujours la même région en Crète, l'école française a la chance de pouvoir travailler sur plusieurs sites qui s'enchaînent chronologiquement. En effet, le site de Dreros, c'est un site qui se trouve non loin de ces deux premiers sites que nous venons d'évoquer, où a été trouvée une grande agora dont on a daté le tout premier état d'époque archaïque, le tout dernier état est d'époque hellénistique, c'est-à-dire à peu près le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, avec de grands gradins, une entrée monumentale, et on a là un centre politique très caractéristique de ces cités crétoises. Il faut rappeler que la Crète était célèbre pour ses 100 cités qui s'étaient développées sur l'ensemble de cette île.
Alexandre Farnoux, c'est là où vous faites une découverte absolument capitale, un texte de 3 lignes.
Alors c'est une fouille que l'école française a menée dans les années dans l'entre-deux-guerres, qui a été ensuite poursuivie par le service archéologique et que nous avons reprise maintenant en collaboration avec le service archéologique, où a été découvert en effet dans l'entre-deux-guerres un texte très important qui est une loi démocratique qui explique que toute personne qui exerce le pouvoir principal, c'est-à-dire quasiment l'équivalent du président de la République, le magistrat principal de la cité, ne peut pas se représenter une seconde fois avant un délai de 10 ans. C'est la première loi datée du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est la première loi démocratique de toute l'histoire de la démocratie. Elle empêche l'installation du pouvoir personnel.
Quelque chose d'absolument formidable.
C'est tout à fait impressionnant. C'est découvert à Dreros, donc à côté de cette agora que nous fouillons.
C'est quelque chose de très peu connu pourtant.
Oui, c'est une inscription qui est connue des spécialistes. Elle est toujours d'actualité puisqu'on se pose pour le problème de la réitération des charges publiques. Dans l'Antiquité, on considérait que tout le monde devait accéder aux charges publiques et qu'il y avait même un système de tirage au sort qui faisait qu'à un moment donné, chaque citoyen pouvait se retrouver pendant une durée plus ou moins longue, le président de la République ou le président de la cité ou le magistrat principal de la cité devait exercer un certain nombre de charges.
L'école d'Athènes, c'est aussi Délos. Sur cette île tout à fait extraordinaire, continue-t-on à travailler donc sur les sanctuaires, les cultes des liens des périodes archaïques ou hellénistiques?
Oui, l'île d'Apollon, comme on l'appelle aussi, c'est une île qui est connue pour le sanctuaire d'Apollon et ses autres sanctuaires, sanctuaire des rats, sanctuaire des dieux égyptiens. C'est une île sur laquelle l'école française travaille depuis 1873. Les dernières fouilles ont été menées au début des années 2000. Aujourd'hui, on est surtout en campagne d'études, principalement, pour publier à la fois des corpus d'inscriptions, mais publier aussi des vestiges qui ont été fouillés dans un sanctuaire d'Aphrodite ou les vestiges qui correspondent aux installations portuaires de la ville, puisqu'à côté de ce sanctuaire d'Apollon, c'est aussi une grande cité qui s'est développée, une cité commerciale qui a connu une heure de gloire à l'époque hellénistique.
Curieusement, l'épigraphie et l'archéologie seraient bien plus importants que les sources littéraires autour de Délos.
Alors pour Délos, il y a pas mal de sources littéraires. Évidemment, si on compare un autre sanctuaire sur lequel travaille l'école française d'Athènes, le sanctuaire de Delphes, les sources littéraires sont moins nombreuses. En revanche, les sources épigraphiques sont très très nombreuses, plusieurs centaines de textes, puisque nous avons la chance d'avoir retrouvé les archives du sanctuaire d'Apollon, c'est-à-dire l'inventaire des biens du dieu réalisés chaque année par les magistrats en charge, qui détaillent la totalité des offrandes présentes dans tous les sanctuaires et tous les bâtiments du sanctuaire d'Apollon. Et donc, on a des inventaires de biens extrêmement intéressants qui nous permettent de suivre de très près les richesses du dieu qui était un très grand propriétaire et un banquier en même temps qui prêtait à des taux très élevés.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez entièrement modélisé l'île.
Oui, alors nous développons des outils modernes d'investigation et donc pour Délos, à la suite d'un premier atlas papier qui a été publié il y a quelques années, nous avons développé un système d'information géographique entièrement numérique dans lequel toute la documentation graphique sur plusieurs échelles a été intégrée et est accessible aujourd'hui à partir du site internet de l'école. Et nous venons récemment d'intégrer un modèle 3D complet de l'île que nous avons réalisé dernièrement en partenariat avec la société Iconem et qui qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un outil tout à fait extraordinaire de recherche à distance pour compléter la recherche de terrain que nous faisons chaque année.
Un outil pour les chercheurs, on peut désormais mesurer les distances des bâtiments par exemple ?
Oui, le modèle est un modèle entièrement géoréférencé, ce qui fait qu'on peut prendre des mesures, calculer des surfaces, faire des coupes en étant dans son bureau, dans n'importe quel point du monde et préparer sa mission de manière extrêmement concrète grâce à cet outil. Ce sont des outils que nous développons puisque une grande partie de nos chercheurs qui viennent sur nos programmes sont des chercheurs qui appartiennent à des institutions réparties sur l'ensemble du monde, principalement en France, et par conséquent nous développons pour eux des outils numériques à distance qui leur permettent de gérer leurs données scientifiques.
Un des grands risques de l'archéologie grecque, notamment à Délos, est l'usure liée au tourisme. Ici, la conservation s'avère urgente ?
Oui, le Délos est un site assez exemplaire. Des problèmes aujourd'hui qui portent sur le patrimoine grec. La crise qui a traversé l'État grec pendant très longtemps, la raréfaction des moyens publics pour intervenir sur le patrimoine, malgré l'apport de financement européen, a fait que les questions patrimoniales sont aujourd'hui au premier plan. Délos est de ce point de vue-là exemplaire. C'est un site qui est soumis à, en effet, à une pression touristique un peu moins importante qu'ailleurs, qu'à Delphes par exemple, parce que l'accès à Délos est un peu difficile. C'est un bateau pour y aller. Le bateau est lui-même sujet à tempête et par conséquent, il y a un peu moins de monde qui vient à Délos qu'à Delphes. Mais il n'empêche que même peu nombreux, les visites ont besoin d'être encadrées, les monuments ont besoin d'être conservés et puis surtout, les ruines sont maintenant à jour depuis quasiment plus d'un siècle et elles sont aujourd'hui victimes d'un certain nombre de dégradations, liées aux intempéries, à la montée du niveau de la mer, et nous sommes obligés d'intervenir avec nos collègues grecs pour préserver ce patrimoine inestimable.
Justement, la remontée des eaux est aussi un vrai problème. Vous avez dû stocker des colonnes dans une zone, par exemple ?
Oui, nous avons constaté ces dernières années que des zones de stockage de blocs de marbre qui avaient été préparées lors de la Grande Fouille dans les années 1890 à 1914 sont aujourd'hui des zones qui ont été atteintes par la remontée du niveau de la mer. Elles sont aujourd'hui inondées par de l'eau salée. Ces blocs de marbre sont aujourd'hui dans de très mauvaises conditions de conservation. Dans ce cadre-là, nous avons dû déplacer plusieurs centaines de ces blocs pour les remonter à un niveau supérieur de façon à les mettre hors d'atteinte de cette remontée. Et cette question de la remontée du niveau marin concerne d'autres sites de Méditerranée et en particulier dans les Cyclades. Et c'est une action que les Phories des Cyclades, donc le département archéologique de cette région de la Grèce, entreprend aussi de combattre.
Vous avez aussi un programme d'archéologie sous-marine ?
Oui.
Une épave tardive romaine, visiblement.
En partenariat avec les Phories sous-marines, donc le département d'archéologie sous-marine de l'État grec, nous avons développé tout un programme de recherche sur les installations portuaires qui sont aujourd'hui sous la mer, mais qui à l'époque étaient évidemment en bord de mer. Et à la suite de ça, l'identification et la localisation d'un certain nombre d'épaves, donc une épave d'époque romaine dans la baie de Fourni, à une époque où l'île est elle-même normalement en plein ralentissement économique et on a eu la surprise de découvrir cette épave remplie d'amphores qui montre que le commerce continuait encore dans cette île à cette époque. Sans doute.
Et puis vous avez jumelé donc avec vos confrères grecs et italiens Délos et Pompéi, ce n'est pas rien. Qu'en est-il des recherches à Delphes, des fouilles mais aussi des travaux sur le fameux Aurige daté de 475 avant notre ère ?
Oui, l'autre grand sanctuaire d'Apollon, celui de Delphes où l'école française travaille depuis les années 1890, retient aussi toute notre attention, principalement là aussi en étude, y compris sur des monuments qui pourraient paraître extrêmement connus comme l'Aurige de Delphes, cette grande statue en bronze qui est l'objet principal du musée de Delphes, universellement connu. C'est paradoxalement une statue dont on est en train de découvrir que un certain nombre d'éléments, en particulier le montage de cette statue, les soudures des différentes parties, sont tout à fait remarquables et exceptionnels. Et c'est donc un projet qui est porté par le musée du Louvre, le C2 RMF et l'école française d'Athènes en partenariat avec les Phories de Phocide pour réaliser ces analyses.
Le bandeau de l'Aurige ne serait pas en argent, par exemple ?
On pourrait identifier la présence de plusieurs métaux différents et c'est un peu ce que nous comptons faire cette année par des analyses avec en particulier une gammamétrie, une échographie, une photogrammétrie, l'ensemble de la statue pour obtenir ces résultats. On s'attend à des résultats assez étonnants sur les questions de soudure, à une époque assez haute. Il y a là une question de technologie du bronze qui est tout à fait remarquable.
Et puis bien sûr, Delphes, ce sont des fouilles aussi françaises, notamment des fouilles autour de la forteresse. Au travers de votre institution, les archéologues français sont bien présents en Grèce. Toutefois, dans une mondialisation archéologique, la Chine s'implante aussi, la Chine qui a récemment acheté le Pirée.
Oui, les Chinois sont présents en Grèce, mais comme partout ailleurs dans le monde. Hein, actuellement, ils ont un institut culturel, ils sont présents dans au Pirée. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est à quel point le monde archéologique de la recherche en Grèce est un monde international. Il y a 18 instituts de recherche à l'étranger, à Athènes, qui participent dans un concert de collaboration et d'échange, hein, avec une grande exposition que l'État grec a organisée autour de l'œuvre des écoles étrangères en Grèce.
Alexandre Farnaud, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Najar, à la technique Guillaume Ledu et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se consacrera à la préhistoire française.